certains cadras comme moi se souviennent encore de la voix de velours de Barry White, découverte peut-être pour la première fois sur un manteau neigeux, le spot publicitaire dans les années 80 de France Montagne. Et son slogan « La montagne, ça vous gagne » est à nouveau à l'honneur avec quelques améliorations 5.0. « La montagne, ça vous gagne », un beau sujet pour nous dans Panorama. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui connaissent la montagne, vous allez me comprendre, quand vous l'avez dans le cœur, quand vous l'aimez, elle vous aime en retour, elle peut même changer votre vie, votre carrière et à tout le moins vos centres d'intérêt. Avec nous ce soir, trois personnes qui justement ont désormais la montagne dans la peau. Elle est notamment leur fonds de commerce, je dis notamment parce que évidemment la montagne, on l'aime jusqu'au bout. Bonsoir Adrien Rimbaud.
Bonsoir.
Moniteur diplômé de l'école de ski français de Samoins Sixte Grand Massif. Bonsoir à vous Nicolas Chatillon.
Bonsoir.
Co-fondateur du groupe Les Étincelles, on va en parler. Et bonsoir Sophie Lacoste.
Bonsoir.
Co-présidente de Fusalp, marque de vêtements de ski, mais pas que. Adrien Rimbaud, je disais, vous êtes moniteur diplômé de l'école de ski français de Samoins. Vous avez 33 ans, je crois, donc ça fait quand même quelques temps. Qu'est-ce qui vous a décidé, plutôt qu'à une sortie d'école, sortie de diplôme, de la trivialité, mais on a tous envie de revoir ce film dans cette période festive. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir Popeye ?
Tout d'abord, l'amour un peu serré du ski, quand on est jeune, quand on a 19 ans, on se dit les études c'est sympa, mais c'est vrai qu'aller s'amuser au ski avec des amis et vivre un peu un rêve, c'est une occasion en or.
Donc vous avez préféré, si je comprends bien, là vous vous vendez pas beaucoup parce que j'ai l'impression que vous préfériez faire du slalom spécial plutôt que d'ouvrir des livres et apprendre des cours.
Je dirais que les deux sont pas on va dire
incompatibles,
mais ouais voilà, c'est pas incompatible, mais c'est vrai que quand on a 19 ans, qu'on sort du bac, voilà, moi j'ai vite fait un choix. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Et c'est une vie assez intense, mais très belle.
C'est quoi la vie ? Alors, effectivement, pour les gens, les urbains, ou même ceux qui vivent dans les campagnes, la montagne, on la croise, pour ceux qui en ont la chance, peut-être une semaine, parfois 15 jours par an. Mais les moniteurs, on les croise, on leur confie les enfants, ou alors on est enfant soi-même, et puis on a des souvenirs, bon, mauvais, des professeurs de ski. Mais c'est quoi la vie d'un moniteur de ski ?
La vie, le quotidien d'un moniteur de ski, c'est très particulier. C'est quand même un métier assez, on va dire, exceptionnel dans le sens où tous les jours sont différents. Mmh. Voilà, on se lève, on se prépare déjà. On a un uniforme assez quand même connu, reconnu. On va donner des cours et partager un peu l'amour de la montagne et du ski avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut mettre ces gens-là en confiance, il faut leur faire découvrir un peu l'amour de la montagne et que nous, on lui porte, ainsi que le ski ou même le snowboard, parce que les activités sont multiples et différentes. Et souvent, on a des gens qui sont des accros depuis tout jeune et qui viennent chaque hiver. Et la plupart du temps aussi, on a des gens qui sont complètement néophytes. Et c'est cela dont on essaie évidemment de prendre soin du mieux qu'on peut.
On va revenir vers vous, Adrien. Je voudrais qu'on accueille aussi nos autres invités. Je note dans votre discours la fierté de porter l'uniforme, ce qui me conduit évidemment vers Sophie Lacoste. Sophie, votre histoire, elle est assez amusante parce que votre nom est associé plus à un crocodile qu'autre chose. Mais vous avez, vous, pour plusieurs raisons, décidé de faire renaître une autre marque qui date de 1950, je crois, ou 1952, qui est une marque qui était un peu en sommeil. Et vous avez fait de Fusalp une marque non seulement de vêtements de ski, mais une marque complètement worldwide, comme on dit en bon français, qui se vend dans le monde entier. Comment est-ce que vous vous y êtes pris et comment est-ce que la montagne a joué dans cette transformation ?
Écoutez, Fusalp, c'est vraiment la rencontre entre la technicité et l'élégance. Donc, comment on a réussi en fait à déjà racheter cette marque qui avait un ADN absolument fantastique. C'est une marque patrimoniale et on s'est dit qu'il y avait vraiment une application de pour cette technicité dans tous les moments de la vie. Et c'est ça qu'on essaye de développer aujourd'hui, de pouvoir vraiment avoir à la fois ses racines, ce savoir-faire incroyable technique. Je pense qu'on fait, on essaye de faire les produits qui soient les plus qualitatifs et les meilleurs du marché, et à la fois cette élégance, cette désirabilité qui fait qu'on a envie de porter du fusalp dans plein d'occasions de la vie, à la ville, pour faire du vélo, au printemps, pour se protéger et utiliser ce savoir-faire technique qui est une vraie valeur ajoutée dans la vie quotidienne.
C'est-à-dire que, avant de parler de l'aventurier au quotidien, de celui qui achètera un de vos vêtements, vous-même, vous avez été saisi par la montagne. Ça a été une opportunité parce qu'il y avait effectivement cette possibilité de racheter cette marque, et c'est pas tous les jours qu'un, comme on dit souvent dans les affaires, le métro passe pas tous les jours. Mais surtout, vous avez été d'une certaine manière vous-même gagné par la montagne.
Alors nous, on est à moitié savoyard. On a racheté l'entreprise avec mon frère, donc la montagne, on est né dedans aussi.
Ça explique beaucoup de choses.
Oui, on est passionné de montagne, passionné de ski, et c'est vrai que, enfin, je crois qu'aujourd'hui le vrai luxe, c'est la nature, c'est pouvoir être en harmonie avec l'élément. On est aussi face à des inquiétudes qui sont importantes, donc on a besoin d'avoir ce contact-là en direct, je crois. Et ça, c'est sûr que c'est une énergie. Je dis très souvent que aller à la montagne, il y a un rapport efficacité temps très très important. Vous n'avez pas besoin de rester longtemps à la montagne pour être complètement régénéré.
Ça, c'est l'effet globule rouge, c'est l'altitude.
Ouais, vraiment, vraiment. Oui, et puis le respirer. On a besoin de respirer.
Nicolas Chatillon, vous avez un parcours qui est assez exemplaire aussi de votre côté. Alors, vous êtes un petit peu plus âgé qu'Adrien, qui lui est moniteur et qui très très vite a voulu faire ce métier-là. Vous êtes passé par la banque. Comment est-ce que tout d'un coup vous êtes, j'allais dire, monté en altitude?
Je crois que c'est d'abord le fruit d'une rencontre avec mon associé principal, Germain Chichery, qui était local de l'étape, qui était champion de ski, et qui avait démarré, créé une plateforme de gestion d'exploitation de chalets de luxe, dans le cadre de la montée en gamme des stations de ski, et l'idée de faire grossir cette plateforme, attaquer le marché de l'hôtellerie, des hôtels, et aussi des résidences, c'est une idée qui m'a beaucoup séduite, et on a construit, quand je l'ai rejoint, ce projet ensemble, avec d'autres associés aussi. C'est une aventure collective, comme toujours dans les entreprises, et donc on a décidé de créer les étincelles, et ça fait maintenant la cinquième année que nous exploitons, nous gérons, nous investissons dans différentes stations de haute altitude.
Alors, il y a une particularité dans les étincelles. D'abord, vous avez, et c'est quelque part triste, mais c'est aussi parce qu'il y a le réchauffement climatique, décidé d'investir majoritairement en altitude, c'est-à-dire, je crois, à plus de 1500 mètres. Et puis la deuxième, c'est que, en fait, la montagne, c'est un écosystème, c'est-à-dire on ne peut pas se dire on va créer des plateformes pour les abrutis, mais c'est pas gentil pour eux parce que j'en fais partie. Mais pour effectivement tous les urbains pas très contents qui passent des longues semaines au bureau et qui arrivent, c'est un peu Gérard Jugnot dans Les Bronzés font du ski, ils sont pas très contents, ils arrivent, voilà. En fait, la montagne, c'est pas que accueillir des gens pas contents, c'est aussi vivre avec les gens qui sont sur place, vivre 365 jours de l'année, et ça, c'est déjà une autre approche.
Oui, d'abord sur la question de la haute altitude, nous, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on connaissait bien les stations de ski qu'on a choisies, Tignes, Val d'Isère, les Arcs, La Plagne, La Rosière, Val Thorens, parce que nos établissements sont positionnés pour accueillir des skieurs. Donc c'est des hébergements qui sont orientés avec des services, puisqu'on va bien au-delà de l'hospitality, comme on dit dans le jargon, de l'hôtellerie. On fournit des services aussi à notre écosystème, et on est connecté avec les gens que vous décrivez dans votre deuxième question. Et donc, effectivement, on essaie de simplifier la vie et de faciliter la vie de nos clients en leur proposant un parcours qui va être peut-être plus simple que cette caricature historique, mais qui était vraie à une époque, et qui fait qu'aujourd'hui, notre profession essaie de transformer et de changer ses usages, de faciliter les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut être concret. Je donne un exemple, un seul. On a créé dans certains de nos hôtels, je pense par exemple à l'hôtel Voulez-vous à Tignes, qui est un hôtel qui a 2 ans, un hôtel 5 étoiles maintenant, des salons à ski, donc des ski lounges, comme disent nos clients anglais, qui sont des endroits dans lesquels vous ne vous occupez pas de les déposer vos skis, les ranger et ranger vos bottes dans son sous-sol.
On n'est pas comme Josiane Balasco, on ne dort pas avec ses chaussures de ski. D'accord,
on ne dort pas avec ses chaussures de ski. On vous aide à mettre vos affaires le matin, à vous déshabiller également le soir, vous enlevez votre matériel, on s'occupe de le laver, de le nettoyer, et ça prend 5 minutes au lieu de 22 minutes en moyenne pour une famille.
Ah, on a chronométré. 4...
Voilà, on a chronométré pour voir l'expérience. Mais l'expérience client, c'est ça aussi, ça se construit. Et c'est vrai que quand vous passez du temps le matin et le soir, c'est aussi, c'est pas forcément le meilleur moment de la journée. Voilà. Donc on a voulu rendre agréable cette préparation et puis cette arrivée le soir pour que, un, ce soit moins de temps, que les gens puissent faire autre chose et ça donne à leur plaisir, leur loisir, au spa ou à, voilà, d'autres choses ou des sports extérieurs. Et en même temps, simplifier les choses et la rendre beaucoup plus agréable. Hein, c'est aussi, bien sûr, délivrer le forfait à l'accueil, à l'hôtel, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui comptent aujourd'hui pour simplifier cette expérience.
Adrien Rimbaud, quand vous entendez l'expérience de Nicolas Chatillon et de Sophie Lacoste, qui... alors, Sophie est savoyarde, donc évidemment, elle avait déjà un pied dans la neige, d'une certaine manière. Vous reconnaissez également dans ces parcours la montagne, dans le sens où la montagne accueille tout le monde. Vous avez des racines qui ne sont pas forcément montagnardes non plus.
Oui, non, la montagne accueille tout le monde et c'est vrai que nous trois, on travaille main dans la main presque au quotidien. Moi, je viens d'un milieu, on va dire, j'ai un père qui était déjà directeur d'école de ski en montagne et j'ai passé mon bac quand j'étais plus jeune sur Bordeaux. Dès que les études ont été, enfin, le semblant d'études a été terminé, moi, je suis tout de suite bougé pour les Alpes.
Pour les Alpes. Sophie Lacoste, on en parlait un petit peu brièvement tout à l'heure. Le fait de faire une gamme pour le ski, c'est-à-dire que chez vous, quand on rentre dans vos boutiques, il y a les grosses, grosses doudounes, on sait qu'on est parti pour faire un slalom géant, voilà, et que ça serait peut-être un peu ridicule de porter ça en ville, quoique... C'est notamment si on veut vous voir de très très loin. Mais on fait du vêtement aussi, j'allais dire plus urbain. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que celui qui porte du Fusalp en ville, c'est d'une certaine manière un aventurier. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un vêtement quelconque ou celui que porte tout le monde, ben, en portant du Fusalp, on se dit aussi qu'on est, on a pris un peu le virus de la montagne.
Ah, je ne sais pas si on a pris le virus de la montagne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on amène l'élégance à la montagne. C'est, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et puis, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il y a une interaction entre la ville et la montagne. C'est qu'à la ville, on peut avoir besoin de mobilité, on peut avoir besoin de mouvement, et que justement, on fait des vêtements qui sont là pour accompagner ce mouvement, pour pouvoir être protégé, pour pouvoir être mobile, pour pouvoir respirer dans son vêtement, et que cette valeur ajoutée-là, elle a du sens à la montagne, bien sûr, mais aussi à la ville, dans nos vies quotidiennes, en voyage, et c'est ça l'intérêt d'avoir des vêtements qui sont techniques et qui durent aussi très longtemps et qui vous accompagne pour vous sentir, parce que finalement on s'habille pourquoi ? On s'habille pour se sentir capable de faire quelque chose, pour être en état d'agir, c'est vraiment ça. Donc parfois ça peut être pour skier en effet, mais c'est aussi pour vivre, pour aller travailler, pour se sentir bien dans ses capacités, et c'est ça qui est très passionnant à faire pour nous.
Est-ce qu'il y a des clients qui ont la Fusalp mania, c'est-à-dire que maintenant ils s'habillent de la tête aux pieds et, et 365 jours de l'année, et qui vous demandent quand est-ce que vous faites un maillot de bain ?
On fait des maillots de bain d'ailleurs, pour hommes, tout à fait, donc c'est tout à fait possible. Mais on a des clients très fidèles, ça c'est assez formidable. L'autre fois j'étais à Bruxelles et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà acheté du Fusalp dans 7 magasins différents. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une addiction aux produits Fusalp, et c'est pour ça qu'on essaye de proposer des vêtements pour plein d'occasions de la vie.
Quel est votre magasin le plus éloigné, tiens, sur le globe en partant de Paris ?
Séoul.
Séoul, ah oui.
J'ai envie de vous dire Séoul. On a 4 boutiques à Séoul et c'est un marché qui fonctionne très bien, qui aime beaucoup justement les produits techniques et puis les marques un petit peu différentes. Ils sont très prescripteurs, donc c'est un vrai sujet. Et puis on a aussi une boutique à Aspen qui a ouvert il y a 3 semaines. Donc vous voyez, on couvre quand même un assez grand morceau du globe.
Aspen, Colorado. Nicolas Chatillon, c'est important, c'est intéressant ce que dit Sophie Lacoste quand elle dit que l'élégance à la montagne, c'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, complètement. C'est vraiment, ça s'inscrit dans un certain art de vivre. un art de vivre à la montagne et aussi finalement des codes petit à petit qui se sont installés et qui font que effectivement nous une certaine clientèle plutôt haut de gamme qui aujourd'hui
oui, skie le dire, dans les, il faut dans les le stations dire, les gens qui vont au sport d'hiver ce sont des gens privilégiés
je pense qu'il faut nous on opère des hôtels 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles donc on a une gamme qui est assez large mais c'est vrai que le Barry Centre avec la montée en gamme c'est beaucoup de clients étrangers qui ont aujourd'hui un niveau d'exigence qui fait que notre offre doit être aussi à la hauteur de ces exigences et de leurs aspirations quand ils viennent à la montagne. Donc cet art de vivre, c'est l'esprit chalet, lifestyle, comme on dit aujourd'hui dans l'hôtellerie. Donc l'idée selon laquelle on doit retrouver des codes, le bois et la pierre par exemple pour le design, que ce soit dans un hôtel, dans un appartement ou dans un chalet à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est un certain nombre de codes qui vont de l'habillement à l'esthétisme du monde montagnard, à la vie de village, qui je pense aussi rejoint l'authenticité des valeurs d'aujourd'hui, l'idée selon laquelle on vient se ressourcer, se dépayser, l'idée de la rupture, finalement, de couper aussi. Donc il y a à la fois des éléments de continuité avec la ville, mais il y a aussi, je crois, très fortement une notion de rupture et aussi de dépaysement, de ressourcement qui peut être à la fois du repos, qui peut être aussi la fête, parce qu'on trouve aussi beaucoup de fêtes, beaucoup de joie de vivre à la montagne, en famille ou avec des amis, de plus en plus.
Ça ne vous empêche pas d'avoir, j'allais dire, les pieds sur terre en tant que bon manager. Vous avez travaillé longtemps au plus haut niveau dans des établissements bancaires. Donc, vous savez, vous connaissez la rentabilité. Et c'est très important dans un écosystème qui est celui de la montagne qui doit continuer à vivre. Il y a le problème des saisonniers. On a vu dernièrement, dans une station de ski suisse, un problème pour les saisonniers qui doivent être logés à 40 km de la station de ski en question, ce qui est totalement impossible pour eux. Il y a un écosystème, un peu comme à l'époque, il y avait, j'allais dire, les écosystèmes des châtelains, où il y avait des terres agricoles autour, et puis c'était, voilà, tout le monde vivait en bonne intelligence avec tout le monde. C'est ce que vous essayez de faire, notamment avec une autre problématique qui vient de se rajouter à ça et qui est pour le coup encore plus importante et plus grande à plus grande échelle, c'est celle des lits chauds et lits froids.
Oui, tout à fait. D'un mot, vu de l'exploitant que nous sommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce que ne voit pas forcément notre client, c'est les conditions d'exercice de nos activités, avec cette question centrale de la condition, du statut de nos collaborateurs saisonniers, qui sont des gens précieux, qui sont des gens formidables, qui sont très engagés dans la saison qui vient de commencer, saison d'hiver avec nous, on en a près de 800, et qui effectivement est une question de fond et de long terme, comment on les loge, quel est leur statut, à l'heure où, de plus en plus, on manque de logements et de logements proches de nos établissements, parce que la question de l'empreinte carbone n'est pas loin non plus. Et effectivement, on ne peut pas penser mettre des gens à Bourg-Saint-Maurice et tous les jours avoir une heure de car ou une heure de voiture pour rejoindre nos établissements. Mmh. C'est difficile de le penser sur le long terme. Donc c'est des choses que nous traitons aux étincelles avec une politique de logement adaptée, où on essaie d'intégrer dès les rénovations, dès les nouvelles constructions, des logements saisonniers adaptés sur place, hein, sur site, plus possible, c'est pas toujours possible. Et donc on doit avoir recours à des établissements, à des appartements qui sont dans des résidences ou à des établissements dédiés ou spécialisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le foncier en station est de plus en plus cher. Et avec sa cherté ou le renchérissement des coûts, il est difficile de trouver et de viabiliser sur le moyen long terme des perspectives pour loger ces saisonniers dans des conditions satisfaisantes de rentabilité pour l'équilibre de nos établissements. Et c'est vrai que c'est une question d'intérêt général très importante qui doit être prise à bras le corps aujourd'hui. Tout comme la question, vous l'évoquiez, de l'efficacité énergétique des bâtiments et puis de la rénovation de toutes les grandes résidences qui sont dans nos stations aujourd'hui, avec cette problématique de lit froid, lit chaud, contre les lits chauds. D'un mot, un lit chaud, c'est un lit qui est exploité tout au long de la saison commerciale, la saison d'hiver, pendant 14, 15, 16 semaines parfois, et qui donc fait vivre la station, puisqu'à chaque fois, c'est des familles.
C'est un écosystème, voilà.
C'est un écosystème où on va acheter un forfait et puis on va aussi, donc on fait tourner la remontée mécanique et son économie. On va faire tourner aussi le commerce le soir, les restaurants, les magasins de ski, technique et puis d'autres, bien sûr. Et puis les lits froids qui sont les résidences ou des établissements, des endroits qui ne sont pas plus gérés, qui ne sont plus par exemple sous convention à la montagne et où on passe de 14 semaines d'occupation par an à 2 semaines. Mmh. Et là, effectivement, on assiste à un phénomène qui assèche l'économie.
Mais là, c'est dangereux. C'est-à-dire que la station elle-même peut faire faillite, tout simplement.
Alors aujourd'hui, les phénomènes qu'on observe dans les stations des Alpes françaises et que nous connaissons bien nous, ce sont des mouvements qui sont des mouvements de long terme, qu'il faut gérer, piloter, anticiper. C'est le cas, les municipalités sont très engagées dessus, avec les pouvoirs publics, avec les offices, les conseils généraux. Donc c'est une problématique qui est regardée, qui est observée, mais effectivement, toutes les grandes les grandes résidences des années 90, des années 2000, aujourd'hui de plus en plus sont pas gérées ou plus gérées et effectivement posent des problématiques pour des stations qui ont 30, 40 000 lits chauds en moyenne, d'avoir 1000 lits froids supplémentaires par an qu'il va falloir rénover pour les remettre sur le marché et les refaire gérer. Mmh. Et donc on a une vraie problématique d'incitation pour faire gérer ces logements.
Incitation qui vient comment ? C'est-à-dire qu'on fait venir des investisseurs qui disent, et vous essayez de les convaincre en disant, regardez, on peut faire quelque chose ?
C'est ce qu'on s'est employé de faire avec mes associés. On a repris effectivement des sites qui étaient des sites à l'abandon pour les transformer, qui étaient même plus aux normes d'ailleurs, qui étaient devenus complètement froids, on peut l'appeler comme ça, qu'on a décidé de transformer pour
les remettre au goût du jour. Parfois, oui, bien sûr.
À des amiantés avec des investissements très lourds. Et puis effectivement, les remettre au goût du jour à la fois sur le plan de l'énergie, de leur consommation et des normes de construction. Et en même temps, derrière, pour effectivement redonner ou retransformer ces lits qui avaient disparu en lits chauds. Mmh. Et c'est vrai que le lit chaud, c'est synonyme d'hébergement commercial, d'hôtellerie aussi et de service, hein, forcément, parce que les gens qui achètent aujourd'hui des appartements à la montagne ont envie qu'on quelqu'un s'en occupe localement, puisse le prendre en gestion pour le louer. Et donc la clé, c'est aussi effectivement d'avoir des services derrière.
Ouais, qu'il y ait une continuité.
Des services. Ouais. Exactement, d'avoir une activité de gestion, de gérer, de s'en occuper.
Adrien Rimbaud, question qui revient d'ailleurs à la toute première question que je vous ai posée. Est-ce que, après ce que vient de dire Nicolas Châtillon, est-ce que vous êtes bien logé ? Ou est-ce que vous êtes à Pétaouchnok ?
Alors bien logé, oui, non, moi je suis pas ni en vacances ni entre guillemets saisonnier parce que j'habite en bas dans la vallée en station. C'est vrai que on a la facilité là où j'habite par exemple d'avoir des remontées mécaniques qui permettent d'accéder directement depuis le village du bas jusqu'à la station de ski, ce qui fait un gain de temps énorme, un gain d'argent pour les saisonniers, enfin pour les vacanciers. Ça leur évite de prendre la voiture, beaucoup plus écologique. Et je sais qu'il y a beaucoup de stations qui tendent à partir dans cette direction aussi, de limiter un maximum l'accès au ski avec la voiture et au mieux de faciliter l'accès par des transports en commun ou ce genre de développement.
Et quand vous entendez justement les efforts que font Nicolas Châtillon et le groupe Étincelle, c'est quelque chose qui va dans le bon sens?
Ah bah oui, ça va dans mon sens. C'est quelque chose qui est en accord parfaitement avec, on va dire, l'air du temps. Oui, j'entendais aussi tout à l'heure que c'est vrai, le ski est un domaine, on va dire, qui coûte cher. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup de gestes qui sont faits pour, par exemple, les populations un peu moins favorisées. On a par exemple, nous, à l'école de ski français, développé un programme qui s'appelle Enfance et montagne, qui permet d'amener des classes de neige pour les enfants l'été comme l'hiver, de pouvoir profiter de la montagne, parce que la montagne se profite évidemment l'hiver, mais aussi l'été. Et voilà, c'est vrai que nous, on accueille tout le monde à bras ouverts. On est conscient que on va dire, le prix global d'une semaine est assez élevé, mais en fonction des stations que vous choisissez en France, il y a toujours moyen de pouvoir trouver son bonheur.
Et on a une fierté d'avoir beaucoup, beaucoup de stations en France. C'est ça qui est bien. Sophie Lacoste, quand vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait cette élégance qui était très importante dans votre ADN chez Fusal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour, et peut-être au milieu des années 90, vous êtes pointé dans une station, vous avez vu du orange, du jaune, et du vert, et c'était un peu bariolé partout. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ?
Ça, vous savez, c'est la mode. Il y a des tendances et parfois on les assume plus ou moins. Mais bon, il faut savoir que c'est un éternel recommencement.
Moi, j'assumais ma combi violette et verte dans les années 90. Ah. Hein, mais bon, elle est.
Non. Elle aurait pu être fluo aussi. Mais oui. Alors après, c'est des histoires de tendances. Mais c'est vrai que d'un coup, de pouvoir être, c'est aussi une question de polyvalence. Quand on investit finalement dans un matériel de qualité, quand on a un vêtement qui nous plaît. Ça peut être chouette aussi qu'il soit suffisamment élégant pour être mis ailleurs qu'à la montagne et pouvoir profiter de ce beau vêtement, de cette jolie veste un peu tout au long de l'hiver. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des cotes qui soient peut-être un peu moins sportifs. Je pense que c'est plus intelligent.
Merci beaucoup à vous trois. Merci Sophie Lacoste, coprésidente de Fusalp. Merci à Nicolas Chatillon, cofondateur du groupe Les Étincelles. Et merci à vous, Adrien Rimbaud, qu'on risque de croiser tout en rouge avec le logo de l'ESF du côté de Samoëns.